voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques, écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Philippe Brison est un homme étonnant. De formation HEC et dirigeant de plusieurs grandes entreprises, Philippe a choisi d'être à la tête d'une structure culturelle qu'il appelle une biosphère. Philippe rêve d'un monde décloisonné, et au travers des actions qu'il mène, il s'active à créer de la complémentarité. La voix du Kaizen donne dans cette émission la parole à cet homme passionnant.
Alors moi je suis un espèce de médecin de la vie. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai fait, je permets à des gens qui vont rencontrer le travail qui est fait avec moi, et on reviendra sur mon parcours, je leur donne la possibilité de repartir en chemin différent. C'est-à-dire qu'ils ont puisé quelque chose à l'endroit où j'étais pour pouvoir être différent. Donc, personnellement, j'ai eu un parcours qui est un peu particulier, puisque j'ai fait... je suis issu d'une famille extraordinaire, puisque mes parents ont 70 ans de mariage. Papa vient juste de mourir, mais 70 ans de mariage d'une famille de 6, c'est quand même rare aujourd'hui. Et donc, finalement, je suis très content de savoir qu'on peut ne pas faire de zapping, et que si on fait un travail en profondeur, on peut toujours avancer. J'ai fait HEC, ce qui, en France, est utile, parce que simplement, ça donne une carte de visite et des marées. À condition simplement de ne pas perdre de vue que si on est on a fait une grande école française, il y a aussi le terrain, et il faut juste ne pas considérer que le monde est séparé entre ceux qui ont fait des écoles et ceux qui n'en ont pas fait. Alors à partir de ce moment-là, ça change la vie. Et puis en sortant de cette école, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Mais j'ai fait de l'audit, ce qui me permettait d'aller voir des quantités d'entreprises. Et une des choses que j'adorais, c'était d'ailleurs de faire les inventaires de fin d'année avec toutes les équipes sur le terrain. C'était merveilleux parce que quand on commence à faire ces inventaires, d'abord on est obligé d'être avec les gars à 5h du matin et comprendre la réalité de leur métier.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Pour l'instant, on est plutôt dans l'entrepreneuriat, on n'est pas encore dans l'entrepreneuriat social. Il n'y a pas encore l'humain, il n'y a pas encore cette notion de médecin de la vie.
Qu'est-ce que c'est qu'être hôtelier ? Quelle est la première chaîne hôtelière dans le monde ? Les abbayes bénédictines. Et donc, on allait d'un endroit à un autre et on se reposait à l'abbaye. Et qu'est-ce que fait un père bénédictin ? Il accueille dans le corps, dans le cœur et dans l'âme. Eh bien, qu'est-ce que doit être un hôtelier s'il fait bien son boulot ? Il doit accueillir, ou un restaurateur, il doit accueillir dans le corps et fournir quelque chose qui est soit de la restauration, soit un vrai lit, mais dans le cœur, avec toute l'émotion. Et c'est là où il y a une relation qui est différente. Ce n'est pas qu'une relation d'argent, j'ai acheté une chambre, etc. Et puis, dans l'esprit, qu'est-ce que c'est que cette chaîne et pourquoi ça apporte quelque chose ? Donc c'est ça être médecin de la vie.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Le thème du lieu, c'était Amuse et Muse. Hein. Ça, c'était mon temps de réflexion. Ça veut dire que c'est un lieu de détente dans lequel il y a quand même des choses qui ont du sens. C'est pour ça qu'il y avait les muses. Cet espace, je voulais en faire autre chose qu'un espace. Parce que ce n'est pas un espace, c'est un lieu. Un espace, c'est large. Un lieu, c'est centré. Et le thème de ce lieu, on peut tout y faire. C'est un lieu ouvert, authentique et multiple. Créateur de liens, porteur de sens et générateur de rencontres. Et quand je dis ça, c'est forcément au niveau du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Et du spirituel. Donc à partir de ce moment-là, une rencontre, ça peut être un goût, ça peut être un son, et j'ai donc transformé ce lieu pour faire gardait un cœur rythmique qui était là, puisque c'était déjà un cinéma créé depuis 30 ans par Frédéric Mitterrand. Donc j'ai gardé le cinéma. Il était évident qu'il fallait faire un restaurant et un bar. Et puis après, que créer? Ben, c'est venu tout à fait naturellement. Il y avait un étage où il y avait des bureaux, j'en ai fait une galerie d'exposition et des salles de réunion. Pourquoi des salles de réunion? D'abord parce que je pense que si on est en réunion, et c'était dans mon métier précédent, il vaut mieux être en réunion dans un lieu qui apporte de l'harmonie et du sens aux gens qui viennent. Et donc les thèmes de formation sont portés forcément plus pertinents et efficaces à partir du moment où on a été dans un joli lieu harmonieux. Donc, galerie d'art, dans lequel on y fait des conférences, des débats, des lectures. Tous les mardis soirs, on fait une lecture. Très content au bout de 12 ans et très déçu. Très content, ça fait 12 ans maintenant. Très content parce que effectivement, ça fait 12 ans qu'on fait une lecture. Très déçu, c'est que je vois que le monde reste cloisonné, puisque c'est un lieu pour être décloisonné. Ceux qui vont venir écouter la galerie Racine ne viendront jamais écouter lire autrement, qui ne viendront pas écouter les uns et les autres. Donc, sur Paris, c'est toujours un peu difficile de décloisonner. Bon. Conférences et débats, alors sur des thèmes qui sont des thèmes d'ésotérisme, de développement durable. On a reçu Pierre Rabhi, bien sûr, ici. Mais on a reçu aussi des gens qui parlaient de nanotechnologie pour l'expliquer, mais pour aussi donner la compréhension aux autres de ce qu'est la nanotechnologie, le risque que ça peut représenter. Donc c'est faire des conférences sur des thèmes que l'on ne voit pas ailleurs, sans prosélytisme, pour que chacun puisse faire son propre chemin personnel ensuite. Mais on a la musique. Et donc la musique, c'est dans le bar, on a un café-concert, et on a environ 150 concerts de professionnels par an, mais aussi des scènes ouvertes le lundi, ou une scène slam le mardi. On a maintenant la plus vieille scène slam de Paris. Les scènes ouvertes et les scènes slam, c'est gratuit. Les professionnels, eh ben, il faut essayer de les faire vivre aussi. Et puis quelques concerts classiques qui sont dans la galerie. Donc les concerts classiques, lieu plus intimiste dans la galerie. Les concerts de jazz, de world, de chansons à texte, de chansons festives, dans le café-concert qui est maintenant récent. Et puis, nous avons bien sûr un restaurant avec des produits frais. Là aussi, fait maison, produits frais. Pas bio. On a commencé avec du bio. C'est très difficile de gérer, se faire livrer en bio à Paris quand on peut avoir des journées à 200 ou 300 couverts. Si c'est un petit restaurant à 30 couverts réguliers, on sait faire. Quand on veut être livré tous les jours, c'est extrêmement difficile. Donc on a commencé, on a arrêté parce que c'était quasiment impossible. On avait commencé qu'avec les fruits et légumes. Et on a là maintenant appelé ça une biosphère culturelle. Parce qu'au fond, rien n'est rentable, mais chaque chose vit avec l'autre et amène un petit plus, ce qui fait que on a le juste équilibre, puisque de toute façon c'est ce qu'on voulait, que ce soit au restaurant ou ailleurs, on a le juste équilibre. Il y a des années où c'est un peu en perte, des années où c'est un petit peu en plus, avec des gens passionnés qui y travaillent et des gens passionnés qui y viennent. Voilà ce que je pourrais dire très rapidement.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Mais si j'avais un conseil, c'est simplement dire, sa vie professionnelle, c'est juste être en résonance et en harmonie avec ses propres valeurs. Et si on est en résonance et en harmonie avec ses propres valeurs, on va toujours trouver les choses qui... soit les entreprises pour y être salarié, soit l'idée pour créer soi-même son entreprise. Est-ce que c'est le monde des entreprises solidaires? Moi ici, je ne me considère pas comme un entrepreneur social et entrepreneur solidaire, parce que j'avais une autre idée des entrepreneurs sociaux. En revanche, l'objectif et la raison d'être de l'entrepôt n'est pas une raison d'être de faire du profit pour des actionnaires. D'ailleurs, je n'ai pas d'autres actionnaires que moi. Comme ça, je n'ai pas de compte à rendre. Il faut continuer à vivre dans le monde. Donc moi, je conseille simplement de dire, soyez vous-même, sachez pourquoi vous êtes là et faites votre chemin. Et si vous faites confiance et si vous êtes clair, forcément, là-haut, ils vont vous aider.
À quel moment vous aviez été dans cette conscience, envie d'incarner les valeurs, l'éthique que vous portez?
J'ai été élevé par des parents qui avaient une grande éthique, ou d'une famille de six, on reçoit d'abord beaucoup de monde.
C'est quoi l'éthique pour vous ?
Il faut faire attention parce que c'est éthique et toc. Donc l'éthique, c'est simplement être dans un respect avec ceux avec lesquels on travaille, avec la terre avec laquelle on travaille, avec les invisibles avec lesquels on est. Donc moi, je n'avais pas cette conscience complète, sinon que quand j'ai fait HEC, j'ai pas pu faire l'option où tout le monde allait. Visiblement, ça ne me plaisait qu'à moitié. Ensuite, comme j'étais dans des métiers de service, le serveur, on est avec des gens pour qui il faut dynamiser cette notion de relation avec l'autre. Donc c'est merveilleux. Troisièmement, j'ai été élevé dans la religion catholique et je suis très content. On a une autre dimension. Après, il faut savoir prendre le recul pour savoir ce qui est ce qu'on en retient, ce qu'on n'en retient pas. Alors ensuite, l'art m'a toujours intéressé et donc l'art m'a nourri. Donc d'autres parce que ça a œuvré sur moi. Et si ça œuvre, c'est pas parce que on a acheté une œuvre d'art, c'est parce que elle est intéressante pour vous. Voilà comment j'ai commencé, ce qui m'a permis vraisemblablement d'être capable de dire j'arrête parce que j'étais totalement nourri. Ensuite, c'était à moi d'avoir aussi ma propre démarche personnelle, mais j'ai toujours eu ma propre démarche personnelle et c'est une somme de rencontres, de personnes, des rencontres de photographes, des rencontres d'artistes, des rencontres de gens plus spirituels dans le cadre de l'entrepôt. Non, seulement j'en suis le patron, mais je programme très directement tout ce qu'il y a dans la galerie, l'ensemble des conférences et des débats. Je fais moi-même des conférences sur la géométrie sacrée. Voilà. Donc, c'est... qu'est-ce que je vais faire ? Je n'en sais rien.
Tu t'arrêtes jamais, Philippe ?
Ben non, tu m'as demandé de parler, donc...
Je vais revenir à cette notion du médecin de la vie. J'aime beaucoup cette expression-là. Et j'aimerais que tu expliques simplement qu'est-ce que tu aimerais soigner ? Qu'est-ce que tu vois ? Où est-ce qu'elle est gangrénée ? Qu'est-ce qui te démange dans la société, dans le système ou dans la vie aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir soigner ? Et comment tu t'y prends pour le soigner ?
Alors, je vais être très modeste, je vais me soigner moi. J'ai pas la prétention de soigner les autres. Je crois que chacun peut faire sa guérison et son auto-guérison. Et un vrai médecin, c'est celui qui crée le contexte pour que la personne fasse son auto-guérison. De temps en temps, il faut un petit plus, hein, comme dans la nature, il faut peut-être savoir donner un petit produit homéopathique, peut-être de temps en temps un allopathique, parce qu'il ne s'agit pas de... Je suis personnellement pour une harmonie générale. Donc il n'y a pas les bons et les mauvais, il y a juste à regarder et donner un regard différent sur les choses. Et être médecin de la vie, c'est aussi donner un regard différent sur les choses. Il n'y a pas une vérité. Il y a autant de vérités que chacun des siens, des siennes. Si tu es en face de moi, tu me regardes, si tu décris ce lieu, tu vas décrire ce lieu avec des tas de choses qui sont derrière moi et que je ne peux pas voir. Et moi, je vais le décrire de l'autre côté. On peut se battre longtemps pour dire quelle est la réalité. En réalité, on est dans le même bureau, mais avec deux visions différentes. Et les deux sont nécessaires. Et c'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre des visions scientifiques, des visions symboliques, des visions systémiques, des visions du magique et de... Et donc, quand on est juste à l'équilibre et qu'on a fait cette analyse, eh bien là, on va être bien. Donc moi, je crois que être médecin de la vie, c'est laisser l'autre faire ce qu'il a à faire, tout en étant en créant un cocon de quelque chose qui fait que celui qui a envie d'être en résonance avec ce que je fais va pouvoir faire quelque chose. Tu sais qu'il faut deux causes pour créer, pour avoir un effet, deux causes de polarité différentes pour donner un effet qui va être lui-même progressivement polarisé. Mais il faut que ces deux causes soient en résonance. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va mal en ce moment ? Bah, tout le monde va mal. Tout va mal. Nos cellules qui reçoivent plein d'ondes électromagnétiques et qui sont mal nourries, nos sociétés, le fait que tout est décloisonné, les scientifiques analysent d'une manière séparatrice, les écologistes analysent d'une manière séparatrice, ils regardent que la partie systémique des choses, en disant telle chose doit aller avec telle chose. On oublie qu'il y a aussi de la conscience et des éléments qui viennent d'ailleurs. Tout va mal. Est-ce que tout allait mal dans le temps, peut-être? Donc c'est un long cheminement de l'humanité avec le petit temps de passage ici, le petit temps de passage qui fait que moi je pense que j'ai une âme, que cette âme s'est incarnée, elle savait pourquoi elle devait s'incarner. Je suis au service et elle repartira quelque part. Voilà.
Alors tu l'as dit de manière très très humble. Je vais d'abord commencer par me soigner moi-même. Ça me fait penser à la phrase de Gandhi, hein, qui dit « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde ». Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil ou nous donner des conseils? Qu'est-ce qu'on devrait soigner? Par quoi commencer? Par soi-même, d'accord, mais pas par quoi?
Je n'ai pas d'idée comme ça. Par quoi commencer? Il n'y a pas de réponse. J'en suis convaincu. Chacun a la sienne. Donc la sienne, c'est déjà se réaliser. Hein, ça veut dire qu'il faut se réaliser. Et se réaliser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire pour se réaliser. Il faut pas avoir une vie qui est séparée. Si on a une vie qui est séparée, on se recloisonne et il faut se décloisonner. Donc il faut se réaliser. Mais attention, dans un premier temps, il y a la réalisation de la personnalité. Et là, il y a un ego. Mais je crois qu'il faut passer par là. C'est très rare les sages qui vont pas passer par là. Donc il y a forcément un temps d'ego et un temps de réalisation. Et puis après cette personnalité, il y a le temps de l'âme. Et c'est le temps où... Alors certains vont pouvoir avoir la chance de pouvoir le faire à 20 ans, d'autres à 60 ans, d'autres peut-être à 90 ans, je n'en sais rien. Mais il faut que tout cela soit en harmonie. Et qu'est-ce qui fait que l'âme est au service de quoi sur cette terre? Donc, moi, je pense qu'il faut transmettre, hein, et de mettre en contact. En ce moment, personnellement, c'est ce que je pense qu'il faut que je puisse faire. Mais d'autres, ça va être autre chose. Il n'y a pas de réponse globale. Et s'il y avait un conseil à donner, c'est sûrement de savoir remercier, bénir et donner de l'amour aux autres. Alors, pardonner, mais si on pardonne, c'est je pardonne, je suis pardonné. Et je me pardonne. Donc là, on retrouve les trois éléments. Donc on est toujours avec les trois éléments parce qu'on est, on est toujours avec tous les autres. Et il faut aussi savoir se pardonner. C'est pas si facile que cela de vivre les mots que je viens d'indiquer. C'est même très difficile.
Et alors, qu'est-ce qui te tient en vie?
Bien, j'ai pas l'impression d'avoir fini mon chemin. Et donc, quand le chemin sera fini, sachant que je ne sais pas quel il sera, je crois que je peux vivre jusqu'à 100 ans, peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera même plus. Donc, derrière l'entrepôt, il y aura peut-être autre chose. Qu'est-ce qui tient en vie? Il tient à suivre sur le chemin. On est sur le Tao, on est juste sur le chemin. Et quand on est sur le chemin, à un moment donné, eh bien, on peut repartir différemment, simplement parce que on peut aider à un autre niveau d'invisibilité.
Et comment on sait qu'on est sur le bon chemin?
Déjà, la bonne santé. Si on est en mauvaise santé, on peut déjà... Son corps ne ment pas. On se raconte des histoires avec le mental, on se raconte des histoires avec l'émotionnel. Donc, je trouve que déjà, regarder son corps fait que sa joie et son plaisir fait que on a déjà là une partie de la réponse. Après, on peut regarder celle qui est autour de soi. Mais déjà, comme c'est soi qui émane, il faut être petit colibri pour soi aussi. Et pas uniquement pour les autres. Donc, il faut être colibri pour les autres, mais il faut être aussi petit colibri pour soi.
Merci, Philippe.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.